Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Bovalis avec qui nous allons voir pourquoi il est important de préserver et de développer la biodiversité et la nature en ville. Ensuite, nous finirons cet entretien pour discuter des nouveaux projets de son association PACA pour demain. Hélène Bovalis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de PACA pour demain et aujourd'hui nous allons voir pourquoi, selon vous, il est important d'intégrer la nature en ville et comment y procéder. Alors la première question, quand vous dites intégrer la nature en ville, qu'est-ce que vous voulez dire précisément ?
Cette nature, cette biodiversité, elle est présente en ville. Elle n'est souvent pas assez, pas toujours avec les espèces qui sont les plus adaptées aux nouveaux besoins de la ville, en particulier pour lutter contre le changement climatique, ou alors des espaces qu'on appelle espaces verts, espaces qui sont très souvent engazonnés ou plantés d'espèces non locales. Donc il y a effectivement une nature qui est présente. Il suffit de lever la tête hein, et d'écouter et on entend des oiseaux, on peut entendre des insectes. On l'a beaucoup observé pendant le confinement avec le silence qui s'est installé dans le milieu urbain. Mais cette nature entre guillemets en ville est maltraitée et souffre des activités humaines, et pour une bonne qualité de vie et pour une cohabitation gagnant-gagnant et apaisée, on a besoin de réfléchir à cette question et d'y travailler avec les habitants, les décideurs, mais aussi des experts de la biodiversité, parce que ces questions sont souvent aussi techniques et donc on ne s'improvise pas expert de la nature en ville.
Comment pourrait-on intégrer cette nature et développer sa biodiversité dans une grande ville comme Nice, par exemple ?
Alors, la première étape, je pense, d'une démarche de cohabitation avec cette biodiversité, c'est de mieux la connaître. Et pour cela, eh bien, il faut faire des comptages, faire des inventaires, faire des observations. Et donc, il y a un outil qui existe, qui s'appelle l'Atlas de la biodiversité communale, qui peut être d'ailleurs aussi intercommunal hein, selon les territoires, qui mobilise des experts faune et flore qui vont recenser l'ensemble de cette biodiversité présente sur un territoire, et y compris en ville. Voilà, donc ça c'est la base, c'est la connaissance. Cette connaissance, elle va permettre de faciliter l'aide à la décision quand on va agir sur un certain nombre de leviers, hein, qui sont les leviers qu'ont les collectivités. Donc, bien sûr, en premier lieu, les infrastructures, hein, l'urbanisme, avec la délivrance des permis de construire et puis les grands schémas d'aménagement qui doivent tenir compte, en fait, des besoins de cette biodiversité. Et c'est ce qu'on appelle les trames vertes et les trames bleues, les continuités écologiques qui permettent aux espèces présentes sur un territoire de pouvoir vivre, se déplacer, se reproduire dans de bonnes conditions. Donc ces schémas existent, hein, ils sont d'ailleurs obligatoires. Et donc on va regarder les rivières hein, ou les petits fleuves ou les plus grands fleuves qui traversent ces territoires, de façon à ce qu'ils ne soient pas complètement bétonnés, entravés. Alors ça a été une façon de faire standard, hein, dans la plupart des grandes métropoles, des grandes villes, on a occulté, bétonné, enfermé, c'est le cas à Nice par exemple avec le Paillon, hein, ces rivières qui en fait sont des réservoirs très importants de biodiversité. Donc aujourd'hui il y a une tendance, heureusement d'ailleurs, très nette à la désartificialisation d'un certain nombre d'espaces naturels, qu'il s'agisse donc des rivières, hein, des fleuves, ou bien d'espaces qui ont été bétonnés et qui aujourd'hui retrouvent une vie naturelle. Alors, c'est très important parce que quand on regarde les causes premières de cette perte de biodiversité, hein, qui est aujourd'hui mesurée et sur lesquels les grands organismes internationaux équivalents du GIEC pour le climat, qui s'appelle l'IPBES, travaillent et alertent, hein, les décideurs mondiaux, on voit que la première cause de perte de biodiversité, elle est causée par les activités humaines et en particulier par la destruction et la fragmentation des habitats naturels. Voilà, c'est à peu près 30% des impacts. Donc cette réflexion sur le sol, un sol vivant et non plus un sol bétonné, ben ça c'est une responsabilité qu'ont les élus là, dans leur schéma d'aménagement, de réflexion urbanistique et qui fait aujourd'hui d'ailleurs l'objet d'un grand engagement du gouvernement, c'est ce qu'on appelle la zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que si je bétonne à un endroit, je dois débétonner ailleurs. Et là, il y a quelque chose qui est assez facile à faire, hein, et très intéressant d'un point de vue aussi sociologique, c'est de débétonner les cours d'école qu'on a malheureusement, alors pour des raisons de sécurité, voilà. On a aujourd'hui de très nombreux enfants qui passent leur temps sur du béton au lieu d'être en contact direct avec la terre, avec le sol, avec l'herbe, avec la nature. Et ça, c'est une action que mènent de plus en plus de collectivités, chaque fois que c'est possible, de regarder comment on peut transformer la cour d'école plutôt en un jardin qu'en un espace mort.
Alors vous venez d'évoquer la désartificialisation de certains cours d'eau, la débétonisation des cours. Est-ce que vous connaissez des endroits qui ont pour projet de débétoniser ou de désartificialiser dans les Alpes-Maritimes ou qui ont même déjà réalisé ce genre de travaux ces dernières années ?
Oui, alors il y a déjà des réflexions qui sont en cours et des premières actions sur les cours d'école. Hein, je crois que c'est Cannes hein, qui a pris cette initiative. En fonction des travaux qui sont menés dans les écoles, parce que là, on est vraiment dans la compétence communale, hein, donc... de la mairie, il y a déjà des expériences qui sont menées et à l'occasion de travaux, on repense en fait cet espace pour les enfants, avec aussi la plantation d'espèces qui vont donner de l'ombre, qui vont permettre de rafraîchir les bâtiments où sont les enfants, en faisant baisser la température. Voilà. En fait, c'est un ensemble de, mais c'est surtout au départ un réflexe. En fait, il faudrait, dans l'idéal, hein, le rêve qu'on peut avoir, c'est que chaque décideur, quand il prend une décision, quelle qu'elle soit, ait cette espèce de réflexe en se disant, et au fait, quel est l'impact pour la biodiversité? En quoi ce que je vais faire là, la décision que je vais prendre, le permis que je vais signer, est-ce que on a vraiment pris en compte cet enjeu? De préservation ou de réhabilitation de cette biodiversité. Voilà. Donc des exemples, il y en a. Alors il y a aussi les parkings. On a quand même une région qui malheureusement est victime de ruissellement important, d'inondations avec ces phénomènes climatiques très violents. Et on voit que le ruissellement est causé aussi par cette artificialisation. Et du coup, il y a des techniques qui existent. Hein, des matériaux d'ailleurs assez beaux qui font qu'au lieu de mettre un béton complètement étanche, on va mettre un revêtement de sol qui permet le passage de la pluie, même la germination de graines, hein, d'herbes, qui va donc permettre d'absorber les ruissellements, de nourrir la terre, de donner de l'eau et donc de la laisser aussi vivre avec toutes les espèces qui sont dans le sol, hein, dont on parle pas parce que bon, les vers de terre, tout ça, ça intéresse pas grand monde, mais en fait, c'est ce qui fait la richesse et la vie hein, du sol, hein, qui est indispensable à la vie humaine d'ailleurs. Et donc voilà, il y a des choses qui aujourd'hui se font. Le savoir doit être mieux partagé, mais les technologies existent. Je crois que beaucoup d'élus ont compris qu'on peut concilier développement économique et préservation de l'environnement et de la biodiversité, c'est pas incompatible et beaucoup d'entreprises aussi aujourd'hui s'engagent dans ces démarches qui sont à la fois très motivantes pour les salariés qui donnent une valeur à aux marques de ces entreprises par rapport à leurs clients, leurs consommateurs. Donc en fait, on est vraiment dans un cercle vertueux très intéressant.
Alors maintenant, nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler de l'association PACA pour demain, qui est une très ancienne association qui avait pour but de développer et d'instaurer une politique de développement durable au sein des entreprises de la région. L'association, après avoir réalisé de nombreuses actions, a été mise plus ou moins en sommeil pendant quelques temps, avant que vous, Hélène Bovalis, ne décidiez de la reprendre pour développer de nouveaux projets. Quels sont ces projets ?
On a souhaité la réactiver pour porter un premier projet qui est la création d'un centre de soins pour la faune sauvage dans les Alpes-Maritimes. Alors c'est un enjeu que j'ai découvert en étant active aussi au sein de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux PACA. Il faut savoir que dans notre région aujourd'hui, il n'y a qu'un centre de soins, d'ailleurs géré par la LPO, qui est situé dans le Vaucluse, à Bioux. Et donc, toute la faune sauvage blessée ou en détresse des Alpes-Maritimes aujourd'hui est transportée par des bénévoles extrêmement engagée et motivée jusqu'à Bioux pour y être soignée, et du coup elle est relâchée là-bas. Voilà, donc notre département en fait perd une partie de sa biodiversité, et c'est un capital dont on ne peut pas se priver, et donc on a décidé de répondre à un projet développé, enfin initié par le contrat de transition écologique du Pays de Grasse, et de mobiliser les compétences d'un groupe très motivé de jeunes et moins jeunes qui travaillent bénévolement pour ce projet, pour monter ce centre de soins dont on devrait annoncer officiellement le lancement dans quelques jours. Voilà, et donc c'est une démarche qui est vraiment collective, participative, qui a but de mobiliser l'ensemble des décideurs publics, et on compte aussi beaucoup sur les entreprises et tous les particuliers, pour soigner et accueillir dans de bonnes conditions cette faune sauvage en détresse, qui est d'ailleurs souvent victime de ce qu'on évoquait au début, hein, c'est-à-dire des destructions d'habitats et l'impact du changement climatique, puisque par exemple avec les canicules successives très très importantes, ben on a des oiseaux comme des petites hirondelles ou des petits martinets, ben, qui ont trop chaud dans leur nid, et donc qui tombent du nid et qui du coup ont besoin d'être nourris et soignés jusqu'à ce qu'ils puissent repartir. Et donc on sera très heureux de vous tenir au courant de l'avancée de ce projet.
Eh bien, merci beaucoup Hélène Bovalis d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous, merci Radio Éthique.
Et on espère que ce nouveau refuge pour animaux sauvages de PACA pour demain sera en mesure de prendre en charge le plus d'animaux sauvages possible.